Donc le titre de mon message, c'est la délégation de sa puissance. Mais pour pouvoir bien comprendre l'autorité, il faut comprendre notre identité en Christ. Et vous savez que c'est un des thèmes majeurs de notre année, ici à Victoire Centre Chrétien en 2011, c'est de comprendre qui nous sommes en Christ. Ça fait partie d'un des thèmes de la vision pour Victoire Centre Chrétien. Donc pour bien pouvoir comprendre et exercer notre autorité, il faut comprendre l'identité. Et mon message s'inscrit en continuité de la semaine dernière, où vous vous rappelez, on a parlé de la résurrection. On a parlé, pasteur John a évoqué le fait qu'un des plus grands miracles que le monde ait connu, c'est la résurrection de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est la résurrection et la vie. Et pour nous, en tant que chrétiens, il est primordial, capital, de comprendre la résurrection. Parce que si nous ne comprenons pas la résurrection, eh bien, Paul dit que non seulement notre prédication est vaine, donc ça ne servira à rien de prêcher l'évangile si Christ n'est pas ressuscité. Donc il faut absolument pour chaque chrétien, que ça soit ancré dans votre cœur, que vous ayez une révélation à ce sujet, que Christ est ressuscité. Il n'est pas mort. Il n'est plus dans le tombeau. Paul dit aussi, je prends juste quelques éléments de 1 Corinthiens 15. Donc je suis juste en train d'établir quelques fondations sur l'identité pour pouvoir basculer sur l'autorité, d'accord ? Donc notre prédication serait vaine si Christ était toujours dans le tombeau. Autre chose que dit Paul en 1 Corinthiens 15, qui est le fameux chapitre sur la résurrection, notre foi serait vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, ça ne servirait à rien de croire. Pas moi qui le dis. Hein. Troisième point, nous serions des faux témoins de Dieu. Vous pouvez lire en 1 Corinthiens 15, hein, c'est juste des éléments que j'ai pris de ce chapitre. Si Christ n'était pas ressuscité, nous serions des faux témoins de Dieu. Vous croyez en la résurrection ? Amen. Quatrième point, nous serions encore dans nos péchés. Sans la résurrection de Christ, il n'y aurait pas d'espoir, il n'y aurait pas de salut. Nous serions encore dans nos péchés. Et vous savez que le péché, c'est la séparation entre Dieu et les hommes. Péché, c'est quelque chose de sérieux. Et Dieu a décidé de s'en charger de ce péché qui nous sépare de lui. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Et le cinquième point, s'il n'y a pas de résurrection, Paul dit que nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si nous espérons en Christ que sur cette terre, nous sommes tout simplement les plus malheureux de tous les hommes. Donc on voit clairement que la résurrection, c'est le cœur de l'évangile. La résurrection, c'est le cœur du christianisme. La mort de Jésus-Christ, ah oui, il fallait qu'il aille à la croix. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, n'est-ce pas ? Il fallait qu'il passe par la croix, l'ensevelissement de Christ et la résurrection de Christ que nous avons fêté dimanche dernier. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre foi, le cœur de l'évangile et le cœur du christianisme. Et pourquoi Paul écrit ça dans 1 Corinthiens 15 ? Parce qu'en fait, dans l'église de Corinthe, il commençait à y avoir des fausses doctrines. Il commençait, même parmi les responsables de l'église de Corinthe, des gens qui disaient « Non, 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 on n'a pas vraiment besoin de croire en la résurrection. » Donc Paul écrit cette lettre aux Corinthiens et dit « Ne vous laissez pas tromper par les fausses doctrines, les faux docteurs. Vous devez absolument croire en la résurrection. Sinon, les points que je viens de citer, prédication serait vaine, notre foi serait vaine, nous serions des faux témoins de Dieu, nous serions encore dans le péché et malheureux sur cette terre. » Donc Jésus est ressuscité, il est bel et bien le chemin, la vérité, la vie et la résurrection. Et c'est un fait réel. Vous savez, moi j'ai été formé dans le journalisme et je me dis toujours, mais ça aurait été un honneur de pouvoir suivre Jésus et de pouvoir noter, faire des comptes rendus sur sa vie. Ah, Jésus, il a fait ça, Jésus, il a fait ça. Mais en fait, il y a quelqu'un qui l'a fait à ma place. Les gens qui ont écrit ce livre, Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'était comme des journalistes qui suivaient Jésus. Ils suivaient le Messie et ils ont mis dans ce livre tout ce qu'ils ont vu. Les évangiles, ce sont des témoins oculaires de Christ. Ce sont des gens qui ont vécu avec lui. Paul, c'est un autre cas. Paul n'a pas connu Christ quand il était sur terre. Il a une révélation du Messie sur la route de Damas. Mais les apôtres de l'agneau, comme on les appelle, ce sont ceux qui ont suivi Jésus. Ce sont ceux qui ont vécu avec Jésus. Ce sont ceux qui ont écrit ce qu'ils ont vu. Et ils ont vu le Christ ressuscité. Souvenez-vous l'histoire, il est ressuscité, il est allé vers les apôtres. Il y avait aussi les dames, Marie Magdalena. Et après, il est allé vers 500 personnes. Avant qu'il ressuscite, il a dit, je vais vous précéder en Galilée. Et il est allé se montrer en Galilée. Donc, Pourquoi j'insiste tellement sur la résurrection? Parce que la résurrection nous donne une nouvelle identité. Et en Romains 10, 9 à 10, c'est le fameux passage qui dit, alors on va le prendre d'ailleurs, parce que j'aimerais encore vous montrer et insister sur l'importance de la résurrection. Pâques n'est pas si loin que ça derrière nous. Romains 10, 9 à 10, j'aimerais vous montrer quelque chose dans ce passage. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que quoi ? Que Dieu l'a ressuscité des morts. Que Dieu l'a ressuscité des morts. Tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, etc., etc. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, en parlant du Christ, c'est le fondement de notre foi chrétienne. C'est la résurrection. Il faut que nous croyions qu'il est ressuscité. Pourquoi j'insiste tellement sur la résurrection? On va prendre le passage clé de ce message et on va tourner en Romains chapitre 4. Et on va voir que la résurrection, elle nous concerne directement. On va voir que la résurrection nous donne une identité qui va pouvoir nous permettre d'exercer l'autorité. Romains 4, versets 23 jusqu'à 25. Mais ce n'est pas à cause de lui seul, en parlant d'Abraham, qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité, c'est encore là, des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses, donc Jésus, et attention, et est ressuscité pour notre justification. Et est ressuscité pour quelque chose. Je vous renvoie à vos cours de grammaire française, la conjonction « pour » implique le but. Donc, Jésus-Christ est ressuscité pour un but. Il est ressuscité, qu'est-ce que nous dit ici Romains 4, 25? Pour notre justification. Alors moi, je suis allé un petit peu regarder dans le dictionnaire, parce que des fois, on peut comprendre un terme différemment. Et je suis allé ouvrir le dictionnaire, et je suis allé regarder. Bon, il faut vraiment que je comprenne ce mot « justification ». Si Jésus est ressuscité pour ma justification, ben, mieux vaut pour moi que je comprenne ce que ça veut dire, n'est-ce pas? La justification se définit de trois manières. Le fait de justifier quelque chose, le fait de se justifier, souvenez-vous, ceux qui ont eu des frères et des sœurs, non, c'est pas lui, c'est pas moi, c'est lui. Hein? On se justifie dans son sens, non, c'est pas de ma faute, c'est de sa faute. On essaye de se justifier. Et la définition la plus importante, la justification, c'est quoi? Prouver son innocence. Ben quand tu dis, c'est pas moi, c'est lui, tu veux prouver ton innocence, n'est-ce pas? Tu te justifies. Avec cette définition, replongeons-nous dans Romains 4. Qui a été livré pour nos offenses en parlant de Jésus et est ressuscité pour notre justification, en d'autres termes, et est ressuscité pour prouver notre innocence. Il est ressuscité pour prouver notre innocence, pas la sienne, il était juste. Il est ressuscité pour mon innocence. En d'autres termes, quand Dieu me voit moi, quand Dieu vous voit vous, si vous avez été lavé dans le sang de l'agneau, Dieu peut dire non coupable. Il peut dire innocent. Tes fautes ont été payées légalement par le sang de l'agneau. C'est capital de comprendre ça, mes amis. Peut-être pour vous, c'est encore tout nouveau de se dire « Attends, je suis innocent, je ne suis pas coupable, mais pourquoi je me sens culpabilisé, etc. » Et en préparant ce message cette semaine, eh ben, j'ai cherché la face de Dieu, et si vous cherchez la face de Dieu, il va vous répondre. Il va vous parler. Hein? Et j'ai cherché sa face, et cette phrase a commencé à jaillir dans mon esprit. Hein? Vous savez, des fois, il y a quelque chose qui remonte comme ça. Et c'est la phrase qui m'est venue. Pour ce dimanche, pour cette assemblée, je lis simplement comme je l'ai reçu. Trop de chrétiens vivent dans la culpabilité et cela ne leur donne aucune autorité. Si tu penses que tu es un petit ver de terre et que tu es encore pécheur, tu n'auras aucune autorité dans le monde spirituel. Tu vas toujours te mettre sous la victoire de l'ennemi si tu ne te sens pas juste. Si tu te sens coupable, si tu te sens sale, tu n'as aucune autorité. Absolument pas. Donc le fait d'être innocenté, le fait d'être justifié, c'est cela qui nous donne de l'autorité. Je vous donne un exemple. Je jouais au tennis quand j'étais encore en Suisse. J'étais dans un club. Et puis, je n'étais pas toujours très tight, très strict avec mes cotisations. Et une fois, je vais au club avec mes raquettes, avec mon partenaire pour jouer, et je croise la caissière du tennis club. Ouh là 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 là. Ou je ne sais pas comment vous dites, trésorière peut-être, caissière, ça va, vous comprenez? Enfin, c'est celle qui tient les comptes du club, quoi. Et je dis à mon ami, non, attends, et je me planquais derrière le grillage. J'étais là, non, mais je ne peux pas aller jouer, il y a la caissière. Si elle me voit, elle va me choper. Elle va me dire que tu n'as pas payé tes cotis, donc il n'y a aucune raison que tu viennes sur le terrain. Mais une fois que tu as payé tes cotisations, ben, tu peux jouer tranquille. Une fois que tes factures sont réglées, ben, tu vis tranquille. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je n'avais pas payé mes cotisations, il y a quelque chose qui me culpabilisait. Je n'étais pas en règle. Je n'étais pas en règle avec le tennis club. Donc j'étais là, mais comment tu veux que j'aille prendre autorité sur la caissière? Je ne suis pas en règle. Il y a quelque chose qui me culpabilise. Mais si elle vient vers moi et j'ai payé mes cotis, excusez-moi madame, j'ai payé mes cotisations, je suis justifié pour le tennis club, j'ai le droit de mettre mon pied sur ce terrain de tennis et de jouer à ma petite balle jaune. Comprenez, à travers ce petit exemple, qu'est-ce que je veux dire dans le domaine spirituel? C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui vous culpabilise, si vous pensez que le sang de Jésus n'a pas suffi pour vous laver de tout péché et de toute iniquité, vous allez avoir une position d'infériorité dans les lieux célestes. Vous allez avoir une position d'infériorité dans le royaume spirituel. C'est pour ça que c'est important de comprendre cette justification. Il a payé pour ton innocence. C'est dit non coupable. Oui, mais je ne le sens pas. Oui, mais je ne pense pas. Mais ce n'est pas basé sur vous. C'est basé sur ce que lui, il a fait. Et si tu n'acceptes pas ça, finalement, tu dénies ce que lui, il a fait. Tu dis, le sang de Jésus n'a pas suffi. Il faut un autre sacrifice. Alors, on fait quoi? On retourne sur l'ancienne alliance? Il a obtenu pour nous un sacrifice éternel, une rédemption éternelle. Son sacrifice est suffisant. Il m'a lavé. Je suis justifié. Corinthiens dit comme ça, celui qui n'a point connu le péché, 5:21, il l'a fait devenir péché pour que nous devenions la justice de Dieu. Il a enlevé sa justice, lui qui était juste, en d'autres termes, il te l'a donné. Un exemple simple, c'est comme si je prends la chemise de Martio. Martio, c'est Jésus, d'accord? Martio, il a un manteau de justice. Moi, j'ai un manteau de péché. Christ, il a dit, attends, moi, je prends ton manteau de péché. Je le mets sur moi et mon manteau de justice, tiens, je te le donne, tu le portes. Ça s'appelle la rédemption, mes amis. Et si vous ne comprenez pas la rédemption, dans le royaume spirituel, vous allez être quelqu'un de vulnérable. La justice de Dieu, c'est un des sujets peut-être qui a été le moins compris dans le corps de Christ. On a été très fort pour dire, oui, tu es pécheur, oui, tu n'es pas assez bien, oui, tu n'y arriveras pas. Mais ce n'est pas basé sur nous, c'est basé sur ce que lui, il a fait. C'est ça la justice de Dieu. Et qu'est-ce que son amour pour nous? Il a donné cette justice. Pourquoi? Pour que nous soyons à nouveau en paix réconciliés avec Dieu. La rédemption n'est pas un concept, la rédemption n'est pas une philosophie, la rédemption est une réalité qu'il faut vivre. Et je peux l'accepter parce qu'il a payé pour moi. Alléluia! Une fois que vous avez compris ça, je vous donne un autre exemple. Mon université, là j'étais encore sous peu, encore étudiant, m'envoie, monsieur Boulanger, vous êtes exmatriculé. J'ai fait, ah bon? Comment ça se fait? Pourtant, j'ai payé mes taxes universitaires. Mais en fait, vu que je suis à l'étranger, le transfert d'argent a pris un certain temps, peut-être une dizaine de jours. Donc, du coup, il m'envoie une lettre, sans appel, quoi. Vous êtes exmatriculé. Mais j'ai dit, mais non, j'ai payé. Je suis justifié. J'ai réglé ma facture. Résultat, j'appelle. Je dis, écoutez, vous n'avez pas reçu mon paiement? Ah, écoutez, pour l'instant, on ne l'a pas encore reçu, laissez-moi contrôler. Ah oui, monsieur Boulanger, effectivement, nous avons reçu votre paiement, du coup, ne considérez pas notre courrier. C'est ça, la justice. La justice, c'est que c'est lui qui a payé pour nous. Il y avait une rançon contre nous. La loi nous condamnait. La loi nous disait, la connaissance du péché vient par la loi, nous disait, tu es pécheur, oui, d'accord. Mais maintenant, il y a la grâce, et la grâce nous justifie. Je vous donne un autre exemple. Vous êtes prisonnier. La loi de la France vous dit, tu as fait tel et tel acte, tu es condamné, prison. D'accord. la propre justice, se croire qu'on va y arriver par notre propre justice, serait de dire, bon, maintenant je vais m'évader. Je vais jouer à Prison Break. Je vais casser la baraque et je vais m'évader de cette tôle. Alors je prends ma propre justice, parce que je pense que j'ai rien à faire là, je creuse mon trou et tout, mais le problème c'est qu'une fois que tu es dehors, tu n'es toujours pas en règle avec les lois de ton pays. Tu n'as pas payé ta peine. Mais ce que je veux vous dire par là, si vous n'acceptez pas votre propre justice, mais la justice de Dieu, c'est comme si Jésus venait au pénitencier, boulanger, prévenu numéro 2, 4, 7, 8, 9. Je paye pour toi. Maintenant, tu peux sortir de cet établissement et une fois que tu es dehors, la loi française ne pourra plus te condamner. C'est ça la justice de Dieu. C'est-à-dire que vous avez été justifié. Vous avez été transporté d'un royaume, le royaume des ténèbres, dans le royaume de son Fils bien-aimé. Vous avez été transporté dans une autre juridiction spirituelle. Vous n'êtes plus sous la loi du péché et de la mort. Vous êtes dans le royaume de Dieu. Et je peux dire, Satan, tu essayes de venir me titiller ? Ben, peut-être quand vous sortez de prison, on vous signe un acte, je ne sais pas exactement comment ça se passe, et vous dites, hey, j'ai payé mes cotis. Le notaire a signé telle et telle chose. J'ai un acte légal qui me dit que je peux être sorti de prison. J'ai un acte légal, un testament qui s'appelle le Nouveau Testament, qui me dit, j'ai un droit légal, je suis sorti du royaume des ténèbres, et Satan, si tu essayes de venir m'accuser, je sors mon testament. Et je commence à citer mes droits et mes privilèges en tant que chrétien. Comprenez ce que je veux dire? Et vous dites, mais non coupable, moi? Si vous êtes né de nouveau, c'est le cas, non coupable. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Je suis innocent maintenant? Je suis en paix avec Dieu? Je peux dire au diable qu'il n'a plus d'emprise sur moi? Qu'il n'a plus d'autorité sur moi? Eh oui, grâce au sacrifice de Jésus. Tournez avec moi en Colossiens 2. Colossiens 2, versets 14 et 15. Et là, vous allez comprendre mes petits exemples pratiques, parlant du tennis, de la prison, etc., et des taxes universitaires. Ce passage, c'est une merveille. Colossiens 2, verset 14. En parlant de Jésus, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Là, il parle de la loi mosaïque. Là, il parle de la loi de Moïse. Souvenez-vous, la connaissance du péché vient par la loi. Donc la loi nous dit, tu as menti, tu as volé, etc. Donc, tu es condamné par la loi. Jésus va même plus loin et dit, si tu dis à ton frère raca, c'est-à-dire imbécile, tu as péché et tu es condamné. Donc on est tous dans le même ou dans la même barque. Nous avons tous été condamnés par la loi. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Justement, Christ, cette loi qui nous condamnait, il l'a effacée. Il a effacé quoi ? L'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle et en triomphant d'elles par la croix. Donc s'il y a quelque chose qui vous condamnait et qui vous mettait en prison dans le naturel, imaginez que quelqu'un est venu et a déchiré ça. La loi française maintenant ne te condamne plus. Elle est effacée, tu peux sortir. Et c'est ce qu'a fait Jésus avec nous. Il a effacé cet acte-là. Et en comment ? En nous donnant sa justice. Je suis justifié. Il est ressuscité, je reviens à ce que je disais au début, il est ressuscité pour notre justification. Il est ressuscité pour notre innocence. Il est ressuscité pour nous rendre innocents, pour nous innocenter, pour nous rendre libres. Paul dit comme ça, vous avez été affranchis de la loi du péché et de la mort. Mais ça, il faut que ça descende là, mes amis. Pas seulement information, transformation. Parce qu'une fois que vous avez saisi ça, dans le milieu spirituel, vous devenez un danger. Vous avez de l'autorité. Pourquoi dans Éphésiens 6, quand il parle du breastplate, comment on dit ça en français ? La cuirasse. Dans Éphésiens 6, il parle de la cuirasse de la justice. Parce que si vous ne comprenez pas votre justice qui est en Jésus-Christ, je le rappelle, ce n'est pas notre propre justice, il l'a acquise pour nous. Si vous ne comprenez pas que vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ, vous êtes en train, tout votre torse dans l'armure, il est découvert. Et là, vous êtes vulnérable. Vous êtes vulnérable pour les attaques du malin. Vous êtes vulnérable pour les traits enflammés du malin. Mais une fois que vous mettez la cuirasse de la justice, une fois que vous savez que vous avez été justifié, eh ben, vous gonflez un petit peu les pecs et vous marchez comme ça. J'ai le plastron de la justice. Mais si tu ne comprends pas que tu as le plastron, imagine, dans une guerre de gladiateurs, si tu n'as pas de plastron, il te met un coup d'épée, excuse-moi, mais tu ne vas pas durer. Hein, regardez un bon péplum et puis vous regardez un petit peu comment ça se passe. Un bon film de l'époque. C'est tellement important, mes amis, cette justice. Mais là, c'est mis que Jésus a effacé pour nous l'acte qui nous condamnait. Imaginez un grand tribunal céleste, une grande cour suprême. Dieu est au milieu, il est juge. D'accord ? Il est juge. On sait que Dieu juge. Il va juger comment nous avons traité Jésus-Christ, première des choses. Et pour les croyants, il va juger nos œuvres. Ensuite, il y a un avocat. Hein, peut-être quelqu'un d'entre vous fait du droit, ça va vous parler. Il y a un avocat. 1 Jean 2 nous dit que notre avocat, c'est Jésus-Christ. Et souvent, dans un procès, il y a quelqu'un qui est accusé, qui est nous, la loi nous accusait, oui. Et il y a aussi un accusateur, notre ennemi, l'adversaire, Satan. Mais nous avons un avocat. Nous sommes coupables par la loi de Moïse. Il y a quelqu'un qui en profite et qui vient nous accuser. Tu es coupable, tu es coupable, tu es coupable, tu ne vas pas t'en sortir, t'es nul, t'es un ver de terre. Mais en même temps, devant Dieu, devant le juge, Jésus vient. Il dit, stop Dieu, je vais payer pour ceux qui sont coupables. Je vais verser mon sang pour eux et je vais les racheter. C'est-à-dire que je vais racheter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais payer le prix de mon sang pour leur liberté. Il dit, non, Clara, Arlette, Cheryline, non coupables. Ils ne sont pas condamnés. Je viens pour eux. Je me livre pour eux. Je donne mon corps pour eux. Je donne mon sang pour eux. Maintenant, ils sont innocentés. Ils sont non coupables. Ils ont revêtu ma justice. Christ a pris notre place dans le tribunal. Nous avions la position de condamnés. Il a dit non. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a livré son sang pour le pardon de nos péchés, ce qui nous séparait de Dieu. Et maintenant, j'ai une position. Je suis assis à la droite de Dieu, en Christ Jésus, dans les lieux célestes. Ça, c'est ma position spirituelle. Et quand les apôtres ils disaient, lève-toi et marche. Ils ne priaient pas 15 minutes. Hein. Ils savaient leur autorité, mes amis. Lève-toi et marche, boum, ça se passe. Ça, ils ont compris leur autorité spirituelle. Ils ont compris ce qui s'est passé dans ce cours, dans ce tribunal céleste, où Jésus a dit, oui, ils étaient coupables, mais je vais me livrer pour eux. Je vais dire, non, maintenant, vous êtes non coupables. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour le diable alors? Jean 16, 11. Jean 16, 11. On sait que le prince de ce monde, c'est le diable. Hein, 2 Corinthiens 4, 4 nous dit cela. Mais regardez ce qui s'est passé lorsque Jésus s'est présenté pour nous. Lorsque Jésus a présenté son sang pour nous, parfait, sans tache, ni ride. C'est pour ça qu'on peut être justifié. Ce n'est pas basé sur nous. C'est basé sur lui et ce qu'il a fait pour nous. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Satan a été jugé. Lorsque Christ est monté avec son sang vers le Père, qu'il a présenté son sang parfait, sans tache ni ride, devant le propitiatoire, c'est, vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait le souverain sacrificateur, il allait présenter le sang sur le propitiatoire, dans le Saint des Saints. Et ça, c'était une préfiguration de ce que Christ allait accomplir pour nous. Christ a pris son sang, il est monté, il l'a versé sur le propitiatoire. Ça veut dire que toi qui étais coupable, nous, innocents, diable qui essaie d'accuser, jugé. Il est sous nos pieds, il est jugé maintenant. Le sang de Jésus l'a jugé. Il a effacé l'acte, il a effacé les ordonnances. Maintenant, il est dessous. Quand vous, comme dit Pasteur John, quand vous lui parlez, vous ne faites pas un roman. Vous n'avez pas besoin de dire « oh là 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 ». Comme quand il y a un chien qui vient vous appeler ce chien, vas-y, pars. C'est comme ça. On prend notre autorité dans le nom de Jésus. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on essaye d'obtenir. C'est ça que j'aimerais que vous saisissiez. C'est quelque chose qui a déjà été obtenu pour nous. C'est pour ça qu'on peut exercer notre foi là-dedans. Ce n'est pas nous, par notre propre force, en train d'essayer de jouer à Prison Break. C'est Jésus qui est venu payer la rançon pour nous. C'est pour ça qu'on a de l'autorité. C'est une autorité spirituelle, ce n'est pas une autorité naturelle. Ce n'est pas par la force de mes bras, de mes jambes. C'est par le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Oh, mais mes amis, je vous annonce des bonnes nouvelles là. Hein. Donc la loi, comme je l'ai expliqué, elle nous condamnait. Mais vous savez que depuis la résurrection, à nouveau, je viens à la résurrection, nous sommes sous une nouvelle dispensation. En d'autres termes, nous sommes sous un nouveau temps. Nous ne sommes plus sous la dispensation de la loi, nous sommes sous la dispensation de la grâce. La loi nous condamnait, mais la grâce nous justifie. La grâce, elle nous justifie. C'est la grâce de Dieu qui nous permet, en d'autres termes, notre nature pécheresse s'est transformée en une nature de justice. C'est ça la grâce de Dieu. Nous n'avons plus une nature pécheresse, nous avons une nature de justice. Et quand Abraham et Sarah, ils n'arrivaient pas à enfanter. Abraham s'appelait Abraham, après il est devenu Abraham. Sarah était Sarah sans H, mais elle est devenue Sarah avec H. Et H, c'est le Hé. Et le Hé, c'est un symbole de la grâce de Dieu. Ça veut dire que quand Abraham, il a été gracié par Dieu. Et Sarah, elle est devenue avec un H, Sarah, ça veut dire qu'elle a été graciée par Dieu. En d'autres termes, elle n'arrivait pas à enfanter, mais grâce à la grâce de Dieu, elle a pu enfanter. Sa stérilité est devenue fertilité. Sa destinée naturelle, comme le disait Donato, est devenue une destinée surnaturelle. Elle a pu enfanter. Et nous, c'est la même chose avec notre condition de péché. La grâce de Dieu nous a transformé cette nature de péché en nature de justice. Je suis justifié. Et j'ai un testament pour le prouver. Donc c'est pour ça que quand vous avez des espèces de pensées qui viennent, oh, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, oh, tu y arriveras jamais, oh, t'es coupable. Non, non, coupable. La parole de Dieu le déclare. Jésus a payé pour moi, je reçois. Quand il y a l'esprit de crainte qui essaie de venir, je ne vis pas dans la crainte, je vis dans la foi. Parce que la foi est le contraire de la crainte. Et là, vous commencez le combat spirituel. Souvenez-vous, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités de ce monde de ténèbres. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles, en vertu de la connaissance, je ne suis pas sûr, mais pour abattre des forteresses. Elles ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles, pour abattre les forteresses. Comprenez votre position de justice maintenant ? Maintenant, on va voir comment cette justice peut nous procurer de l'autorité. Et on va finir avec ça. Donc, on va reprendre Romains 4. On va reprendre Romains 4. Et notre fameux verset clé pour aujourd'hui, qui nous dit qu'il est ressuscité pour notre justification. Et juste pour votre information, le texte original grec n'a pas de chapitre ni de verset. C'est quelque chose qui est venu, la fragmentation du texte biblique, plus tard, au 9e siècle. Donc du coup, quand vous arrêtez à la fin d'un chapitre, continuez parce que c'est souvent lié avec ce qui est en dessus, d'accord ? Il est ressuscité pour notre justification. On va au chapitre 5. Est-on donc justifié, d'accord ? Par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été réconciliés, il nous a donné la paix et nous sommes donc non coupables. Est-ce que ça veut dire que je peux demeurer dans le péché ? Pas du tout. Si Dieu a envoyé son propre Fils pour pouvoir anéantir le péché, il ne va pas nous laisser allez, vas-y dans le péché. Non, pas du tout. Hein. Paul dit, loin de là. Hein. On est appelé à vivre une vie sainte, une vie droite, et s'il y a du péché dans notre vie, et si le Saint-Esprit nous convainc de péché, eh bien on règle ça, tout de suite. Hein? Ça c'est important, parce qu'il y a pas mal d'enseignements qui disent le contraire en ce moment. Voilà, donc, nous avons été, la résurrection nous a donné, je reprends depuis le début, notre justification. Cette justification, c'est le fait qu'il nous a innocentés, nous sommes devenus non coupables, réconcilié et en paix avec Dieu. D'accord ? Et puis dans ce fameux passage de Romains chapitre 4, en fait, Paul, quand il écrit ce passage, souvent Paul, il partait pour ses voyages missionnaires, Mais après lui, il y a des gens qu'on appelait les judaïsants qui venaient derrière lui. Et Paul, il prêche la justification par la foi. Et après, là, il y a les judaïsants qui disent « Non, 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 si vous voulez devenir chrétien, vous devez d'abord passer par la circoncision. » Ça, c'est ce que les gens disaient. Et Paul, dans cette lettre, il dit « Non, 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 ne vous laissez pas tromper. La justification, elle s'obtient par la foi. » C'est le thème de toute l'épître aux Romains, la justification par la foi. Et là, il dit « Non, 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 ne vous laissez pas perturber par ces gens qui disent que vous devez vous faire circoncire. » Et il prend l'exemple d'Abraham un peu plus tôt dans le chapitre 4. Il dit « Abraham n'a pas été justifié par la circoncision. Abraham a été justifié par la foi. Il a cru et cela lui fut imputé à justice. » Par contre, la circoncision était le sceau de sa justice. La circoncision venait témoigner de cette justice. Vous savez, quand vous mettez un sceau dans les documents légaux, il y a un sceau du notaire qui vient dire « boum », qui vient authentifier ça. Donc dans l'Ancien Testament, la justification qu'a obtenue Abraham, elle s'est faite par la foi aussi. Mais la circoncision est venue mettre un sceau sur cette justice. Et dans le Nouveau Testament, quel est le sceau ? Qu'est-ce qui vient authentifier notre justice ? C'est le Saint-Esprit, je l'ai entendu par ici. Le sceau de la Nouvelle Alliance, c'est le Saint-Esprit. Donc nous avons été justifiés par la foi en Jésus-Christ, et le Saint-Esprit, et quand Jésus a présenté son sang parfait, ça nous a purifiés et il a pu envoyer la puissance de Dieu. Il a pu envoyer le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce message la délégation de sa puissance. Parce que le sceau de Saint-Esprit, il nous a donné sa puissance. Jésus est monté, il n'en avait plus besoin, il était à nouveau près du Père. Il s'est dit, par contre, mes disciples, ils en ont besoin. Je vais le envoyer, je vais déléguer ma puissance, je vais donner le Saint-Esprit. Et ça, c'est tellement important. C'est tellement important parce que c'est la définition de l'autorité. L'autorité, c'est un pouvoir délégué. C'est une puissance déléguée. Ce n'est pas notre propre puissance naturelle, humaine. C'est la puissance de Dieu. En d'autres termes, c'est la puissance du Saint-Esprit qui réside à l'intérieur de nous. Je reprends mon exemple de la prison. Le sang de Jésus vous a lavé. Il a effacé l'ordonnance. Donc du coup, vous êtes dehors de prison. Mais même quand vous sortez de prison en France, il y a des gens qui viennent vous aider, n'est-ce pas ? Ils viennent vous dire, bon, maintenant tu es sorti de prison, peut-être va voir cet organe de replacement, peut-être eux, ils peuvent t'aider pour un logement, etc. Il y a quand même des aides. La parole de Dieu dit, si vous, méchants comme vous l'êtes, vous pouvez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, moi, je peux donner le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Donc non seulement Dieu ou Jésus, par l'intermédiaire de Jésus, nous a sortis de la prison spirituelle des dominations sataniques, il nous a sortis de là, mais il ne dit pas, bon, maintenant débrouillez-vous, hein. Maintenant, je vous donne ma justice, mais débrouillez-vous. Hein. Pêche plus, hein, surtout. Hein. Non seulement son sang nous a rachetés et mis dans une autre juridiction spirituelle, dans un autre territoire spirituel, mais il ne nous a pas laissé là bras ballants, sans armes, sans moyens, en train de me dire, bon, vas-y, débrouille-toi dans le monde maintenant. Tu es dehors de ta prison spirituelle, mais débrouille-toi. Il a envoyé le Saint-Esprit. Et c'est ça qui nous donne l'autorité. C'est le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. C'est rien d'autre. Ce n'est pas une autorité naturelle, c'est une autorité spirituelle. Rappelez-vous, Jésus, il disait, si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Mais le même Saint-Esprit, il l'a envoyé pour nous, la même puissance, la même capacité de Dieu, la même habilité de Dieu est actuellement en nous. Donc, nous sommes sortis de notre prison spirituelle, mais en d'autres termes, lorsque nous avons été scellés, notre justice a été scellée par le Saint-Esprit. Il nous a donné son équipement, il nous a donné sa capacité, il nous a donné sa puissance pour marcher sur les choses de l'ennemi, sur les scorpions, sur les serpents et sur toutes les choses de l'ennemi. Comprenez maintenant que vous avez une autorité, mais à quoi elle sert cette autorité ? Si vous devez retenir une seule chose d'aujourd'hui concernant l'autorité, c'est que c'est l'autorité pour marcher dans la sainteté. Ce n'est pas une autorité pour dire à Pierre-Paul Jacques, non, fais pas ci, fais pas ça. C'est une autorité spirituelle pour notre propre vie. Vous avez l'autorité dans votre propre vie si vous êtes né de nouveau. C'est une autorité pour marcher dans la sainteté de Dieu. Et quand il y a le péché qui essaye de revenir à ta porte, tu dis, péché, ici, dans le nom de Jésus, je te chasse. Maladie dans ce corps, dans le nom de Jésus, je te chasse. Crainte, ici, moi, je n'agis pas par la crainte, j'agis par la foi. Ici, il n'y a pas de crainte, je te chasse. Vous chassez les autorités spirituelles négatives. C'est ça l'autorité du croyant. c'est une autorité spirituelle. Une autorité spirituelle pour marcher dans la sainteté, parce que Dieu nous appelle à la sanctification, il ne nous appelle pas à la débauche ni à l'impureté. Il nous appelle à vivre droit, il nous appelle à vivre saint, il nous appelle à vivre sans péché. Et s'il y a du péché dans votre vie, vous avez l'autorité pour vous en débarrasser. Si vous avez des mauvaises pensées, vous avez l'autorité pour vous en débarrasser. Si vous avez la crainte, vous avez l'autorité pour vous en débarrasser. Si vous avez de la dépression, vous avez de l'autorité pour vous en débarrasser. Mais vous le faites. L'autorité vous a été déléguée. C'est un pouvoir délégué, une puissance déléguée. Si je délègue quelque chose à Alex, je dis, ouais, Alex, désolé, j'attendais de meilleurs résultats et je lui reprends. Mais j'ai rien délégué du tout, là. J'ai repris ce que je lui ai donné à faire. Mais si l'autorité nous a été déléguée, rappelez-vous la définition, c'est un pouvoir, une puissance qui nous a été déléguée, donnée. Dieu ne va pas nous la reprendre. Il veut que nous agissions sur son autorité. C'est à nous, maintenant, croyants, de prendre autorité. Je vous donne un exemple. Avec Rebecca, je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois qu'on avait un moment intime, un moment câlin, le reste de la journée, il y avait une prise de tête. Et on s'est dit, mais ce n'est pas possible. Chaque fois qu'on veut passer un temps pour notre couple, le reste de la journée, il y a quelque chose qui vient nous perturber. Mais on s'est dit, mais pas de ça chez nous. Cette chose n'a pas le droit de venir nous perturber. Alors maintenant, on prend l'autorité. Et ça se passe très bien. Le reste de la journée aussi. N'est-ce pas? Vous avez des cauchemars la nuit? Prenez autorité. C'est une autorité spirituelle. On était en voyage de noces. Et là, on a appris que chaque fois qu'on va dans un lieu, avant de dormir, il faut prendre autorité et laver tout ça. Parce qu'on ne sait pas qui était là, on ne sait pas ce qui a été fait. Et Rebecca, elle commençait à avoir des cauchemars, que celle qui tenait l'auberge, etc., commençait à rôder autour et à faire des trucs bizarres. On était là, oh là là, on a oublié de prier. On a oublié de prendre autorité dans ce lieu. Une autorité spirituelle. Dieu ne va pas la prendre pour vous. Il a dit, soumettez-vous à Dieu. Résister au diable. Ça veut dire que c'est notre job de lui résister maintenant. Vu qu'il nous a délégué, il ne va pas nous les... Ah bon, vraiment Philippe, tu n'es pas très bon dans le domaine de l'autorité, je vais te la reprendre. Non, non, il veut que nous apprenions ce que ça veut dire l'autorité. D'accord? Alléluia. Et souvenez-vous, l'autorité pour marcher droit. L'autorité pour évacuer le péché de notre vie. L'autorité pour effacer ces choses. Parce que qu'est-ce que Dieu... Pourquoi Dieu nous demande de marcher dans la sainteté? Pourquoi Dieu veut que nous soyons sanctifiés? Pourquoi Dieu veut que nous soyons irréprochables? Parce qu'il veut nous utiliser. Vous savez, la Pentecôte n'est pas arrivée avant Golgotha. Il y a d'abord eu Golgotha et après la Pentecôte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a d'abord eu la crucifixion de la chair pour que l'Esprit de Dieu puisse venir. Et c'est la même chose pour nous. Tant que nous vivons dans la chair, tant que nous vivons dans le péché, tant que nous vivons dans l'impudicité, ne vous attendez pas à ce que l'Esprit de Dieu agisse en vous. Vous voulez l'onction, vous voulez la débauche. On veut l'onction, n'est-ce pas? Alléluia. Mais il veut qu'on crucifie notre chair. Il veut qu'on vive par la puissance de l'Esprit. Et c'est là que la vie de Dieu peut jaillir. Et là, ça prend un certain temps de dompter sa chair. Mais après, la vie de Dieu peut commencer à couler. Parce que c'est clean, parce que c'est saint, parce que c'est pur. Et s'il y a quelque chose qui revient, mais tu prends autorité. Alléluia. À cette théorie, on va passer à la pratique. Je vais vous demander de vous lever. Mais vous allez prendre autorité pour vous-même. Moi, je peux prendre autorité sur ma vie. Mais vous allez prendre autorité pour vous. Et on va demander au Saint-Esprit de Dieu qu'il nous montre les endroits où il y a des choses qui viennent nous déranger. Peut-être certains, vous avez en ce moment une phase de dépression. Vous avez une phase difficile. Qui vous empêche d'avancer dans les choses de Dieu, qui vous empêche d'avancer dans la sanctification, qui vous empêche d'avancer dans la sainteté. Mais prenez autorité pour votre vie. Si vous demandez à quelqu'un de prier pour vous, il va pouvoir vous aider pour cette autorité. Mais le premier détenteur de votre autorité, de l'autorité, c'est vous-même. Il l'a délégué à vous autant qu'à moi, autant qu'à d'autres chrétiens nés de nouveau. Mais il faut juste être conscient de ça. Et surtout être conscient de la puissance de la résurrection qui nous a donné la justification, qui nous a justifié, qui peut me dire maintenant je peux me tenir non coupable auprès de Dieu, dans la paix de Dieu. J'ai été justifié et par conséquent, vu que je suis juste, je peux exercer mon autorité. Je vais encore vous donner un dernier verset. C'est dans le livre de Proverbes. C'est un de mes versets préférés. Et ça va résumer ce qu'on a dit aujourd'hui. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste, c'est vous, a de l'assurance comme un jeune lion. Quand vous êtes juste, si vous êtes conscient de votre justice, vous avez de l'assurance. Si vous avez de l'assurance, vous avez de l'autorité. Alléluia. On va prier ensemble. Et si le Saint-Esprit vous montre quelque chose, priez, prenez autorité. Je vais prier et tu peux jouer de la guitare, c'est cool. Au Père éternel, de gloire, d'amour et de vérité, je te remercie parce que ta parole, elle est vérité. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Ton esprit est vérité et il nous emmène dans toute la vérité. Je te remercie, Père, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons nous tenir dans cette vérité. Nous pouvons nous tenir dans cette position de justice spirituelle, dans cette position de justifié, dans cette position de « je suis innocenté, je suis jugé non coupable et le diable a été jugé à ma place ». Gloire à Dieu. Je demande à ton Saint-Esprit maintenant de venir montrer s'il y a quelque chose qui est en train de titiller, qui est en train d'embêter mes frères et mes sœurs en Christ aujourd'hui. Je te demande de montrer s'il y a un esprit de dépression, s'il y a un esprit de crainte, s'il y a un esprit de timidité, parce que tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je demande à ta force, Père éternel, je demande à ton amour, je demande à ta sagesse d'opérer maintenant dans ce lieu. Et mes amis, si le Saint-Esprit vous montre quelque chose, priez pour vous-même. C'est bon de demander la prière, mais apprenez à prier pour vous-même. Apprenez à prendre l'autorité pour vous-même. Peut-être c'est dans les foyers que ça crie beaucoup. Peut-être c'est entre frères et sœurs. Quelque chose, des gens peut-être ne se sont pas parlé pendant 10 ans. Prenez autorité dans le lieu spirituel et faites le premier pas. La réconciliation, la paix. Jésus nous a montré un modèle. Nous a montré l'exemple que nous sommes réconciliés et justifiés. Mais il veut aussi qu'on se réconcilie les uns les autres. Saint-Esprit, je te demande si tu montres des zones maintenant où de non-pardon, des choses qui doivent être réglées, qu'ils puissent prendre autorité et aller se réconcilier. Merci Père. Je te remercie. Nous prions ça dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors j'espère que ça vous a aidé. J'espère que le Saint-Esprit va continuer à vous montrer ces vérités, qu'il va vous les révéler et que vous puissiez les appliquer dans la vie. C'est ça le plus important, c'est de pouvoir les appliquer. Et vous savez, j'ai appris en préparant ce message, je savais qu'il y avait une autorité dans le nom de Jésus. Je savais qu'il y avait une puissance dans le nom de Jésus. Mais quand le Saint-Esprit vous révèle quelque chose, quand vous avez ce qu'on appelle le rhéma, la parole révélée, et je me suis dit, mais en fait, quand on prie dans le nom de Jésus, c'est pas une petite formule magique. On active la puissance du Saint-Esprit. Il y a la puissance du Saint-Esprit derrière le nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu. Donc ne vous en privez pas. Utilisez. Soyez bénis.